L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Bonjour Robin, bonjour Morgane.
Bonjour.
Bonjour.
Donc on est chez vous aujourd'hui à la ferme Nissibar, au tout début du Pays Basque, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Peut-être juste vous présenter.
Moi c'est Robin, j'habite ici sur cette ferme depuis 5 ans, 5 ou 6 ans maintenant. Et voilà, bon, j'ai un parcours un peu touche-à-tout, curieux, de voyage, de travaux en saison, de travaux en bâtiment aussi. Et puis le goût pour des alternatives. Et puis ben, l'histoire m'a amené à m'installer sur cette ferme il y a 5 ans et à prendre en charge la gestion agricole des terres autour. Ça fait suite à un décès sur le lieu, mais qu'on a voulu maintenir une ferme en état, une ferme active et entière. C'est ce projet-là là, qui a fait que je me suis vraiment impliqué dans la démarche agricole et aussi de comprendre les enjeux qu'il y a autour de l'installation hors cadre familial et des difficultés pour à la fois essayer de vivre du métier, de faire des choses qui soient différentes, qui donnent l'envie d'un avenir différent pour l'agriculture. Et en même temps, les réalités du terrain, de réussir à faire des choses concrètes et d'arriver quelque part. Donc voilà, c'est le voyage continue, mais ancré sur un lieu.
Voilà, donc on va découvrir ta ferme. Et toi, donc, Morgane?
Alors moi, je suis arrivée ici il y a 5 ans, après avoir rencontré Robin. Après mes études, je suis partie un an voyager en Espagne à faire du woofing. En fait, je viens vraiment d'un milieu citadin où ça faisait très longtemps, quand j'étais gamine, que j'avais envie de vivre à la ferme, de vivre dans un milieu rural. Donc je me suis tout de suite orientée dans mes études, dans la gestion, enfin dans des études agricoles. J'ai fait un bac technologique agricole et très vite, je me suis orientée. Après mon bac, j'ai fait une année sabbatique en Espagne, une année dans les fermes en woofing, dans les fermes bio.
Et... Alors le woofing, c'est une façon d'apprendre directement en étant nourri-logé, c'est un peu ça?
Voilà, c'est ça. Donc le woofing, c'est on est accueilli, enfin voilà, c'est à voir avec les hôtes, on est accueilli en tant que bénévole. Et en échange, on est nourri, logé, et voilà, il y a un échange de savoir, de connaissances dans les fermes, quoi.
Et alors, du coup, cette expérience, ça t'a donné envie de continuer
Complètement, ça a été vraiment la porte d'entrée vers le milieu agricole, les alternatives aussi qu'il y a autour de ça. Et j'ai fait une année de différentes expériences dans les fermes, différentes fermes. Des fermes où il y avait de l'élevage, hein, des fermes qui étaient des communautés où ils vivaient à une trentaine, quarantaine de personnes. Enfin voilà, il y avait vraiment un peu un échantillon d'un peu de tout. Et du coup, à mon retour en France, j'ai continué mes études où je me suis orientée dans un BTS gestion protection de la nature. Et très vite après mon BTS, je suis repartie en voyage, hein, voilà, dans l'optique de travailler dans des fermes. Et j'ai rencontré Robin et très vite, je me suis installée ici et à concrétiser le projet.
Cette ferme à Nissibar que vous avez repris, elle a failli peut-être disparaître. En tout cas, on ne sait pas trop parce que l'histoire nous le dira pas. Mais en tout cas, il y a eu donc un drame, un décès. Tu en parlais tout à l'heure, Robin. Souvent, quand il n'y a pas de repreneur d'une ferme, quand la famille n'est pas là, c'est très compliqué. Donc, vous parliez tous les deux des alternatives. Ici, il y a une vraie alternative, c'est le Groupement Foncier Agricole Mutuel, le GFAM, qui est une structure juridique un peu particulière, justement, pour permettre la transmission des fermes. Alors, Robin, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un Groupement Foncier Agricole Mutuel?
En effet, on a voulu sauver la ferme ici, en fait. Donc, c'était dans une situation d'urgence. Avec le projet de ma sœur, en fait, qui avait obtenu l'attribution des terres. Il y a 22 hectares qui sont attenants à la ferme. Et avant son décès, en fait, on avait acheté en SCI la maison, les bâtiments, une société civile immobilière. Donc, c'était une acquisition à plusieurs, en l'occurrence familiale, avec ma mère, ma sœur et moi. On s'est réparti les parts de la maison. On l'a acheté ensemble pour réaliser le projet de ma sœur et aussi moi que je puisse avoir accès à un bout de terrain. Et voilà, construire aussi une partie de ma vie ici. Et les terres, en fait, c'était une vente par la SAFER. C'est la SAFER qui attribuait la vente et ma sœur a bénéficié d'un portage régional. C'est un système qui aide les jeunes à s'installer en faisant une location-vente pendant 10 ans. C'est-à-dire que le jeune installé paye un loyer qui sera à la fin déduit du prix d'achat initial. Comme elle bénéficiait de ça, les terres étaient propriétés de la SAFER. On a dû un peu taper du poing sur la table pour dire non, ben après tout le travail qui a été fait, c'est-à-dire que moi j'ai suivi une formation agricole pour pouvoir accéder à la vente, que j'ai monté un dossier viable sur l'ensemble des surfaces, et aussi de dire que 22 hectares pour faire de la polyculture élevage, c'est pas très grand, ça reste une petite ferme. Donc si on commence à enlever des parcelles et encore réduire les parcelles, sous prétexte que c'est un jeune hors cadre, avec peut-être moins d'expérience que les autres, qui veut s'installer. Voilà, c'était aussi l'occasion de dire, non, il faut laisser la chance à d'autres projets. Et puis, quand il y a l'occasion de maintenir une ferme entière, parce que voilà, il y a une fuite énorme des petites fermes. Donc, quand il y a moyen de maintenir ces fermes-là, ben, autant le faire, même s'il n'y a pas une logique de productivisme derrière. Mais de maintenir un tissu rural qui se base sur des petites exploitations.
D'accord. Alors toi, ton projet, tu parles d'un dossier pour qu'on comprenne comment ça se passe quand on est donc jeune, pas issu du milieu agricole. Donc effectivement, la mobilisation de ta famille autour de l'achat des bâtiments. Après, il y a la question des terres qu'il faut garder. Donc l'unité, finalement, tu parles une ferme entière, c'est une ferme des bâtiments, des outils, plus les terres. Du coup, comment ça se passe pour finalement montrer patte blanche et pouvoir accéder à l'achat de ces terres? Tu as présenté un projet en polyculture
Oui,
élevage?
en gros, on fait un chiffrage économique, surtout la base de la présentation du projet, c'est surtout quels objectifs économiques, quelle production on veut mettre en place, combien de surface on a besoin pour le réaliser, la viabilité en termes de temps de travail et d'investissement. Donc, ben moi, j'ai chiffré un projet, même plusieurs projets au fur et à mesure des difficultés pour se faire comprendre. La base, c'est. Moi, j'ai fait un projet avec DGA, c'est-à-dire d'obtenir la DGA, la dotation jeune agriculteur, qui aide les jeunes à s'installer, notamment en milieu montagne. C'était aussi une façon de montrer que la ferme, même si elle est petite, peut être viable. Et on entend par viabilité le fait d'atteindre le revenu, de se dégager un SMIC au bout de 5 ans. Donc moi, j'ai cherché à montrer que l'exploitation pouvait être viable en réalisant tel et tel investissement, en chiffrant un emprunt et aussi du coup en allant convaincre une banque de suivre le projet. Donc ça, c'est le parcours à l'installation classique avec DGA. Après, on peut aussi faire le choix de s'installer sans DGA et de construire le projet autrement que forcément atteindre le revenu au bout de 5 ans. Pour moi, c'est un système aussi qui fait que on est poussé à l'investissement et pour les hors-cadres d'avoir un projet qui roule en 5 ans quand on reprend une ferme et qu'on part avec peu de matériel, en réalité, concrètement, c'est très difficile à atteindre et il n'y a pas grand monde qui arrive à respecter ses engagements.
Alors du coup, tu parles d'arriver à te dégager un SMIC en 5 ans. Ça fait 5 ans que vous êtes sur la ferme. Vous arrivez à dégager un SMIC pour vous deux ou un SMIC chacun?
Bon, pour l'instant, quasi rien, à peu près rien comme revenu. Mais en même temps, ça fait 5 ans qu'on est là. Mais bon, il y a eu 2 ans de bataille pour maintenir le foncier. Donc 2 ans de campagne avec le GFA. Je vais revenir pour expliquer un peu mieux ce qu'est le GFA. Donc il y a eu et moi, ça fait 2 ans que je suis installé en tant qu'exploitant principal. Et puis pendant une année aussi, on a fait une expérience de vie collective, d'être à plusieurs sur la ferme. Pendant un moment, on était 6 à habiter ici, et d'essayer, au-delà d'une acquisition collective du foncier, de voir comment on pouvait s'organiser collectivement pour créer différents ateliers et articuler le lieu un peu différemment aussi au niveau de l'exploitation agricole.
Alors, du coup, cette
Donc,
expérience, elle a pas abouti?
ouais, là, pour l'instant, on laisse ça de côté parce que, bon, on s'est retrouvé confronté à des problèmes bah, humains, souvent le fameux PFH, le rapport humain, est très important. Donc, bah, comme dans plein d'endroits, nous, on a eu des difficultés humaines, ce qui est tout à fait normal quand on veut faire avec l'humain.
Déjà en couple, c'est peut-être pas facile, évident.
Oui, voilà, déjà, c'est une sorte de petit collectif à articuler qui est pas tous les jours facile. Mais aussi au niveau des rapports de pouvoir, des rapports de présence sur le lieu, c'est-à-dire que nous, on était là avant, on avait une volonté agricole forte et qui s'est en plus renforcée au fur et à mesure du temps. Et de plus en plus, on avait envie de prendre les choses en main et de nous occuper des animaux et d'être. Voilà, d'être sur un projet peut-être un peu plus classique où du coup on a énormément de travail, on est très très pris par le lieu, mais on est investi complètement dans ce qu'on fait voilà, on a éliminé les échappatoires aussi, quoi. Maintenant on s'implique complètement là-dedans. C'est un peu complexe, mais moi je regrette vraiment pas de faire ces expériences et je les encourage partout. C'est vraiment très très enrichissant d'essayer de faire à plusieurs, d'essayer de un fonctionnement horizontal. Si des fois, à mes yeux, ben, des fois ça marche pas, c'est pas possible. Surtout dans le contexte agricole où il n'y a pas beaucoup de statuts qui soutiennent ces démarches-là et que c'est vraiment compliqué et aussi de laisser le temps aux gens pour trouver la niaque pour le côté agricole, quoi, l'investissement agricole et le fait d'être sur une ferme où. Du coup, c'est des enjeux sur beaucoup d'années. Et ça, il faut du temps. Comme moi, ça m'a pris du temps aussi. Ça me prend du temps de m'investir dans ce projet. Donc, il y a ça aussi dans le fond, c'est-à-dire les hors-cadres
Quand tu dis
enfin,
hors-cadre, c'est...
hors-cadres familiaux, c'est-à-dire les jeunes qui reprennent des fermes, jeunes ou moins jeunes, hein, peut-être d'ailleurs. Qui reprennent des fermes sans que ce soit une reprise familiale, sans reprendre l'outil de travail qui a été construit par les parents. Du coup, il y a beaucoup de choses à construire. Souvent, d'avoir grandi dans l'outil de travail, d'avoir aidé les parents pour faire telle et telle tâche, ben, quand on est adulte, on connaît l'outil de travail. Souvent, quand on reprend l'outil de travail, les parents sont aidants au niveau financier pour le rachat du troupeau, pour le rachat des bâtiments.
Et du coup, il doit y avoir des sortes d'immersions dans des fermes avec des fermes où il n'y a pas de fils ou de filles qui vont reprendre la ferme.
Oui, il y a des fermes qui, ça se fait beaucoup maintenant, des parrainages, des systèmes de parrainage où justement l'exploitant prend pendant un an ou voire plus une personne et après, enfin voilà, pour s'initier et puis après la personne s'installe ou pas derrière sans engagement sur la durée. Donc c'est très intéressant pour se forger une expérience justement. Nous, c'est un peu ce qui nous a manqué ici avec avec cette expérience et cette ferme-là, c'est que voilà, on n'a pas pris le temps en fait avant ça d'avoir suffisamment d'expérience dans les fermes pour se forger, savoir quelle activité mettre en place directement, quelle activité économique. Et voilà, enfin, et du coup là c'est un peu apprendre sur le tas et se découvrir aussi dans les activités, savoir vers quoi on veut aller, vers quoi on veut se spécialiser aussi, qu'est-ce qui nous attire le plus, pour pouvoir aussi viser une activité économique, une activité rentable qui puisse nous faire vivre aussi sur le lieu. Donc là, moi, je me trouve toujours en recherche par rapport à ça, de développer cette activité économique et de se spécialiser un peu aussi.
Da 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 da.
Le groupement foncier agricole mutuel, donc Robin et Morgane, il vous a permis de vous installer sur cette ferme de Nisibar, donc au Pays Basque, par la mutualisation et par l'appel finalement à des souscripteurs.
Oui, ben, dans un contexte d'urgence, en fait, comment faire pour acheter les terres du coup, qui étaient remises en vente et à un prix de 60 000 euros plutôt que de s'endetter pour maintenir un foncier qui finalement est dans un but de transmission, de maintenir quelque chose dans le tissu rural, de maintenir les petites fermes. Le fait de mutualiser, en fait, de faire un groupement foncier agricole, ça fait que moi, je suis fermier des terres. J'ai l'outil de travail à disposition.
Tu es locataire, en fait.
Voilà, c'est ça. Je suis en location auprès d'un propriétaire qui est le groupement. Et qui est composé de toutes les personnes qui ont souscrit pour le projet de maintenir cette ferme.
Alors, comment ça marche? Les souscripteurs, ils donnent un peu l'argent qu'ils veulent. Et après, c'est assez démocratique. C'est une personne, une voix, quel que soit l'argent que tu donnes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Ben on a fixé le montant de la part à 75 euros. De souscrire au GFA donne le droit de participer aux assemblées générales et de prendre les décisions ensemble sur le donc en effet sur le système une personne égale une voix. Ça, c'est pour éviter les prises de pouvoir en fonction de voilà du niveau d'argent investi. C'est une forme de don, mais qui permet de s'investir dans le projet et les décisions concernant ce foncier-là, c'est-à-dire coupe de bois ou aliénation de telles parcelles, terrassement, voilà, dès qu'il y a des actions un peu modifiantes sur le foncier, on doit passer par le GFA pour avoir l'aval. Après, il y a aussi une sorte de charte, une éthique du GFA qui fait que le GFA il va choisir son fermier en fonction des pratiques agricoles, quoi. Donc il y a nécessité de viser l'agriculteur biologique, de préserver des races locales, d'être dans une démarche militante au niveau de l'agriculture et de faire valoir le travail paysan. Et du coup, voilà, on est lié par ce contrat-là avec le GFA, c'est un contrat moral avec les personnes, du coup, 200 personnes de la société, quoi, qui sont garants de protéger ce foncier.
C'est non rémunéré, tu parles de dons, mais en même temps, c'est un peu comme des parts sociales non rémunérées. Mais les gens qui ont mis de l'argent, ils peuvent à un moment demander à être remboursés ou pas?
Ils peuvent, ces systèmes de cession de parts, mais ce qu'on dit, c'est que les parts, elles sont solidaires et non rémunérées. Donc solidaire, le principe, c'est pas de reprendre. Après, en cas de difficulté, bon, ben, y a une procédure pour revendre sa part. Le système, c'est si quelqu'un veut récupérer sa part, il doit avant tout éventuellement chercher quelqu'un autour de lui qui rachèterait sa part, et il va proposer ce projet de cession au groupement et dire voilà, bon, ben, moi j'ai besoin de récupérer ça, mais je connais quelqu'un qui veut bien soutenir le projet.
D'accord. Et ça, du coup, c'est un outil, quelque part, le groupement foncier agricole mutuel, c'est un outil qui est donc apparu dans les années 50 et qui vient, on va dire, du monde agricole assez traditionnel, mais qui a été utilisé notamment au moment où il y a eu cette lutte au Larzac pour protéger les terres. Et c'est aussi, finalement, une façon de faire un pied de nez à la propriété individuelle. C'est quand même une remise en cause assez profonde de ce qu'on a l'habitude de voir.
C'est un bon exemple, en fait. Les GFAM du Larzac, les premières fermes qui ont été achetées sous cette forme-là, c'était pour s'opposer à l'agrandissement du camp militaire. Parce qu'il se trouvait qu'il y avait des opérations de division qui faisaient que les paysans, finalement, vendaient leurs fermes parce qu'ils étaient mis sous pression et qu'un jour ou l'autre, ils décidaient de vendre la ferme. D'acheter sous cette forme-là, ça barricadait la vente de la ferme. Donc c'est un des objectifs premiers, en fait, de ces GFA, c'est-à-dire que la terre n'est plus à vendre. Ce serait beaucoup trop compliqué pour réaliser une vente. Donc c'est en ça qu'on dit que ça sort du marché spéculatif et que c'est l'usage de la terre qui devient prépondérant. Et le fait que ce soit non rémunéré, finalement, le capital, c'est un capital variable, mais qui restera dans les mêmes proportions Et donc le prix de la terre va pas suivre le cours du marché, il va suivre sa valeur réelle. Donc c'est en ça que ça va permettre une transmission plus facile. Au-delà de nous, notre projet ici, la personne qui viendra derrière sera locataire, aura un loyer à payer et aura pas à racheter la terre, racheter l'ensemble de la structure et du coup s'endetter, signer avec une banque pour voilà, courir après un remboursement d'emprunt pendant toute une carrière, pendant 30 ans, pour des projets un peu plus sur le travail humain, c'est difficile de générer de l'argent, donc on se retrouve vite coincé. Et du coup, les utopies, les rêves du départ aussi, ils sont vite chamboulés, cassés par le fait d'avoir des annuités à rembourser et de le faire ça pendant 30 ans. Voilà, c'est un choix de vie qui est trop lourd financièrement. Et du coup, en étant locataire, on a un loyer qui est honnête et qui est beaucoup plus facile à assumer. Après, il faut accepter de se dire, bon, ben, on est là, on a cette terre à disposition, c'est pas la nôtre, dans l'idée de la transmettre à un moment donné à quelqu'un. Donc, ça amène ça, de garder en tête que même en commençant l'activité, on est déjà dans une démarche de transmission. Et de se dire comment on va pouvoir le transmettre facilement. Et c'est des problématiques très importantes dans les fermes, même conventionnelles, en fait, de construire des bâtiments. Et après, quand les jeunes veulent reprendre, ils doivent racheter les bâtiments, ils doivent acheter beaucoup de choses. Donc ça fait des rachats de fermes énormes, même en milieu familial. Et ça détruit le tissu rural assez rapidement.
Si vous vouliez donner des conseils à des personnes, à des futurs fermiers ou des fermiers qui veulent s'agrandir, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué et est-ce que vous pourriez les aider à mettre en place un GFM?
Dès qu'on peut, tant qu'on peut, on essaye de conseiller sur ce sujet-là. Bon, il y a deux GFA, deux structures en fait qui ont soutenu ici la démarche. Donc il y a le GFA MBA avec qui on a pu travailler sur les statuts et les campagnes de justement la méthode de campagne de souscription. Donc il y a la possibilité, eux, justement, ils ont réouvert le projet. Au départ, ils ont sauvé une ferme aussi, c'est un peu la même histoire, mais avec 20 ans de décalage. Et ils ont réouvert le GFA pour installer des bergers en vallée d'Aspe. Et aussi là pour du coup rénover des bâtiments, améliorer l'outil de travail sur une ferme qui est assez isolée.
Du coup,
Du coup,
est-ce
je
que
peux.
c'est compliqué?
C'est compliqué de créer un GFAM. Oui, c'est quand même assez lourd comme structure. C'est assez
Et la vie dure
compliqué. C'est pas une
un
association. C'est pas une. Et c'est une société. Donc, il faut. Et en même temps, quand on veut mener campagne soi-même, il faut mener la campagne. Nous, on a fait le choix de créer un GFA propre à la ferme. En effet, il y a d'autres GFA qui achètent des fermes qui installent d'autres paysans. Il y a aussi le cas de l'Oursandia au Pays Basque.
Et c'est un peu
Okay.
tardelien aussi en France, c'est un peu la
C'est
même chose.
ça. En gros, il peut y avoir des structures plus ou moins grosses qui visent les mêmes objectifs. Nous, on a fait le choix d'avoir une structure propre à la ferme qui vise les mêmes objectifs que Terre de Liens, que l'Oursandia,
Ouais.
que GFA
Il y a
MBA.
un côté participatif, donc tu disais, il y a les assemblées, chaque souscripteur qu'il ait mis 75 euros ou 1000 euros, il a une voix, donc c'est aussi expérimenter une certaine démocratie sur la gestion de la ferme. Mais il y a aussi des travaux collectifs qui peuvent être organisés. Ça peut être intéressant aussi pour les fermiers.
Tout à fait, ouais. Il peut y avoir des travaux sur enfin, tout ce qui concerne en fait, le foncier, donc tout ce qui pourrait dénaturer le foncier agricole, donc du terrassement, de la coupe de bois, ou alors tout ce qui concerne les bâtiments agricoles qui sont sur le foncier. Du coup, ça concerne le GFAM et du coup les souscripteurs qui peuvent aussi participer à des chantiers, quoi, de rénovation du bâti, d'entretien du bois, ou enfin voilà, c'est à organiser entre le comité de gérance du GFA, le fermier, enfin, et les souscripteurs.
Il y a par exemple des chantiers de haies plessées. Pour l'instant, on n'a pas encore fait réaliser de chantier. On est encore en campagne avec le GFA. Du coup, l'énergie collective est orientée sur continuer la mutualisation. parce que même si on a acheté le foncier, on a encore besoin de soutien pour mutualiser complètement et rembourser des personnes qui ont avancé de l'argent pour que la vente puisse se faire. Par contre, on a l'envie de faire des chantiers de haies plessées. Alors, la haie plessée, c'est une méthode qui permet de faire des clôtures vivantes et naturelles avec le bois qu'il y a en place. C'est une alternative à la clôture barbelée. C'est une technique assez ancestrale, donc qui consiste à plier des branches pour rendre une haie étanche. Et à acheter, c'est sûr que ça coûte moins cher. En temps de travail, c'est énorme comme boulot. Et après, en entretien aussi, c'est quand même pas mal d'entretien. L'intérêt premier, c'est en effet de voir la biodiversité qu'il y a dans les haies, de savoir reconnaître les différentes espèces et de laisser différents étages. Voilà, il y a toute une dimension de biodiversité avec la hauteur des arbres, la circulation des oiseaux, les insectes qui vivent aussi dans les troncs. Le fait qu'on blesse les arbres, du coup, on crée du terreau, des zones de terreau. Qui fait que les scarabées viennent nicher plus facilement. Donc il y a toute une diversité qui se crée dans la haie, qui peut aussi servir à défendre un ruisseau. C'est un support en fait de travail ensuite pour les cultures, pour les animaux, parce que ça aussi ça donne du fourrage, et aussi tous les insectes, toute la biodiversité qui fait qu'on n'a pas besoin de traiter les cultures et que les auxiliaires sont tous présents. Ici, on réfléchit beaucoup à ça, faire qu'il n'y ait pas de coupure d'auxiliaires, qu'il y ait des circulations d'animaux, d'insectes pour la biodiversité. Et là, au bout de quelques années, moi, je commence à le voir qu'il y a vraiment une belle biodiversité sur le lieu et que ça augmente petit à petit. Et moi, je suis sûr que pour les cultures, que pour les animaux, même pour l'humain, ça crée un univers beaucoup plus vivable. Beaucoup plus sain. Voilà, il y a tout ça qui est englobé oui, dans le fait de plaisser la haie. Des fermes à acheter sous cette forme-là, je pense qu'il y en aurait plein. Moi, j'aimerais que cette façon d'acheter les fermes, de mutualiser, se généralise partout, et j'invite à acheter des fermes du coup via les structures déjà existantes, comme Terre de Liens, l'Oursandia, ou de créer des structures autonomes. Nous, on a créé une structure autonome, bon, c'est lié au lieu. L'intérêt, c'est surtout de sauver les fermes à l'heure actuelle, de sauver du foncier, d'épargner des lieux de la terre pour qu'à l'avenir, on ait cette terre à disposition et qu'elle ne soit pas accaparée. Le premier des objectifs, c'est de lutter contre l'accaparement, peut-être en accaparant politiquement dans un autre sens. Mais ce sera le support de demain, le support des alternatives, avant que tout parte aux agrandissements, enfin au productivisme d'une façon générale, et qu'on va un peu droit dans le mur au niveau de l'agriculture, et que petit à petit elle disparaît. Donc la priorité pour moi, c'est de maintenir du foncier d'une façon ou d'une autre, et d'installer des jeunes plus ou moins compétents, mais en tout cas... En tout cas, qu'ils soient avec une bienveillance de la société pour les gens qui essayent de faire différemment et de faire de l'agriculture biologique et de s'éloigner un peu du productivisme. Pour moi, l'urgence, elle est là. Au-delà de se concentrer sur le lieu, de trouver de l'intérêt, après, il y en a plein. Nous, on essaye de créer un lieu qui soit générateur d'envie et de bonnes idées. Mais pourvu qu'on achète des terres et des fermes comme sous cette forme-là, partout, et qu'on s'y mette tous à mutualiser, quoi.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.